Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec dans un instant le journal et juste après on ouvrira ensemble comme tous les soirs le débat du Club des Idées. On vous décrypte le monde qui change. Il y a 25 ans mourait François Mitterrand, le président aux deux septennats. Tellement d'espoir en 1981 lors de son arrivée au pouvoir, tellement de déception quelques années plus tard. Homme de l'union et de la désunion de la gauche, quel héritage qui aujourd'hui peut se revendiquer de François Mitterrand? On en débattra avec nos invités à partir de 19h20, Catherine Ney, Jacques Attali et Jean Garrigue. Juste avant, ce sera la carte blanche du Club des Idées avec ce soir la philosophe Julia de Funès qui tient donc, nous parlera de la galette des rois. Mais d'abord le point sur l'info avec Rémi Bostaron. Merci d'écouter Europe 1, il est 19h.
La réalité de ce dossier, c'est la jeunesse qui ne prend pas totalement conscience, notamment au mois d'avril 2020, des risques qui sont encourus s'il viole les mesures sanitaires.
8 mois de prison ferme requis contre la gérante du discothèque de l'Isère et son frère. Ils sont accusés d'avoir organisé plus d'une vingtaine de soirées clandestines en plein confinement.
Ce ne sont plus 300 millions, mais 600 millions de doses de vaccins que l'Europe commande à Pfizer-BioNTech.
Et bientôt, c'est le vaccin d'AstraZeneca qui devrait être autorisé dans l'Union européenne. Tous ces vaccins, toutes ces doses, pour quelle répartition? Nous poserons la question à Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Et puis ces vaccins, il faut aussi les produire. Et on va demander à Emmanuel Duteil comment ça se passera, notamment en France.
Des centaines de milliers de canards déjà abattus, des centaines de milliers d'autres qui vont l'être dans les jours à venir. C'est le très sombre tableau sur le front de la grippe aviaire qui sévit dans le sud-ouest.
Quel avenir pour Donald Trump? Évidemment, il ne sera plus président dans 12 jours, mais ensuite, pourra-t-il avoir des ennuis judiciaires? Nous poserons la question à Didier François.
Et puis un Français vainqueur d'un géant aujourd'hui, c'est du ski évidemment, et l'on parle d'Alexis Pinturault, dont vous entendrez la joie.
Un temps à aller faire du ski justement. Bonsoir Agnès, à de nouveau.
Bonsoir.
Attention, les chaussées peuvent être glissantes. Hein.
Oui, demain matin, avec sur toute la moitié nord de nombreux brouillards, des nuages bas qui, avec les températures négatives, pourront être givrants. Dans le nord, le temps sera ensoleillé, bien gris dans le sud l'après-midi. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Organiser des soirées quand on dirige une discothèque, c'est normal, mais quand on le fait en plein confinement, eh bien, la justice peut se montrer sévère.
Et ce sont 22 soirées au total qui ont eu lieu entre le mois d'avril et le mois de novembre 2020 au César Palace de Grenay, près de Lyon. Jean-Luc Boujon, la gérante de cet établissement, et son frère étaient aujourd'hui jugés par le tribunal judiciaire de Vienne. Comment se sont-ils défendus ?
Eh bien, là-bas, on a vu deux prévenus qui ont tenté de minimiser les choses. La gérante, d'abord, une jeune femme de 32 ans qui a repris il y a peu les fonctions de son père à la tête de cette boîte de nuit très connue dans la région lyonnaise. D'une voix hésitante, elle n'a cessé de répéter qu'elle n'était au courant de rien, d'aucune de ces 22 soirées organisées, alors pourtant qu'elle affirme qu'en temps normal, elle gérait tout, des stocks aux invités en passant par la comptabilité. Tout le monde de la nuit lyonnaise savait qu'il y avait des soirées clandestines au César Palace. Tout le monde, sauf elle. Difficile à croire, a estimé la procureure. Son petit frère, ensuite, 20 ans tout juste employé de la boîte de nuit, a certes reconnu qu'il était l'organisateur des soirées. Mais selon lui, c'était de simples réunions entre copains pour boire un coup à 10-15 personnes. Il a admis qu'une ou deux fois, l'affluence avait pu monter jusqu'à 70-80 personnes. Mais parce qu'il avait été dépassé par le succès, par le bouche à oreille, qu'il n'avait pas su dire non. Son avocat, maître Maxence Pascal, a plaidé l'inconscience du jeune homme.
C'est un jeune qui n'a pas su refuser que d'autres invités, indirectement invités par les amis des amis des amis, entrent dans l'établissement dans lequel il était. C'est la jeunesse qui ne prend pas totalement conscience, notamment au mois d'avril 2020, des risques qui sont encourus s'il viole les mesures sanitaires qui ont été ordonnées par le gouvernement.
Voilà, une thèse qui n'a pas convaincu la procureure de Vienne qui a réclamé 8 mois de prison ferme contre le jeune homme et 6 mois avec sursis contre sa sœur. Le délibéré sera rendu le 22 janvier prochain.
Merci Jean-Luc Boujon, correspondant à Lyon pour Europe 1.
L'Union européenne double sa commande de vaccins Pfizer-BioNTech. On passe de 300 à 600 millions de doses.
Et au total, l'Europe a déjà sécurisé l'approvisionnement de plus de 2 milliards de doses de vaccins, auprès notamment donc de Pfizer-BioNTech, mais aussi de Moderna, dont le vaccin a été autorisé aujourd'hui officiellement en France.
Et on vous retrouve Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Isabelle, la question qui se pose maintenant, c'est comment répartit-on ces centaines de millions de doses?
Alors, il y a une règle de base, c'est que les 27 pays européens sont logés à la même enseigne, donc il y a une clé de répartition, celle de la population. La France, c'est 15% de la population européenne, donc on a un quota de départ de 15% de chaque contrat. Ça, c'est le principe. l'égalité. Mais ensuite, ça se complique. Il y a 6 vaccins, 6 contrats, avec toutes les possibilités d'achat offertes par la Commission européenne. La France pourrait, en théorie, acquérir 345 millions de doses. Évidemment, c'est beaucoup trop. Donc, chaque pays fait des arbitrages, renonce à un quota, acquiert celui dont le voisin ne veut pas, attend avant de commander. Parce que voilà, les vaccins ont des prix, des conditions de conservation et des dates de livraison différentes. Exemple, les vaccins de Pfizer et Moderna qui sont déjà là, ce sont aussi les plus chers, entre 12 et 15 euros. Alors que celui d'AstraZeneca, qui devrait être autorisé à la fin du mois, lui, il coûte moins de 2 euros. Chaque capitale pèse donc avantages et inconvénients. Certains pays, comme la Belgique ou les Pays-Bas, ont rendu public la composition de leur panier de vaccins. En revanche, à ce stade, on ne connaît pas la composition exacte du panier français.
Merci pour ces explications, Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. On sait donc comment vont être répartis les vaccins entre les pays membres de l'Union européenne, mais pour les répartir, il faut déjà les produire. Et une partie de cette production sera faite en France, Emmanuel Dutheil.
Oui, on est tout simplement face à un défi majeur et disons-le, à un défi totalement inédit. Réussir à produire des milliards de doses de vaccins en un temps record. Pour relever ce pari, il faut utiliser un maximum d'usines dans le monde et les usines françaises disponibles vont donc être mises à contribution. L'usine de Recipharm va produire en Indre-et-Loire, dès fin février début mars, le vaccin Moderna. Delpharm va produire celui de BioNTech ou encore Fareva va produire celui de CureVac si ce vaccin obtient une autorisation de mise sur le marché. Et puis, et là, c'est encore plus inédit, Sanofi, dont le vaccin a pris du retard, pourrait mettre à contribution ses lignes de production pour d'autres fournisseurs de vaccins, comme l'a confirmé ce matin sur Europe 1 Agnès Pannier-Runacher, c'est la ministre déléguée à l'industrie en charge du plan vaccin.
Si techniquement c'est possible, et là encore, je redis qu'un transfert technologique pour ouvrir un nouveau site prend du temps et qu'il faut choisir l'efficacité, mais si c'est possible, oui, nous sommes en train d'y travailler dessus.
Si on arrive à résoudre ces problèmes techniques, c'est le vaccin d'AstraZeneca notamment qui pourrait être produit sur les lignes de Sanofi. Quant au vaccin de Sanofi, lui, il est attendu au mieux pour la fin de l'année.
Emmanuel Dutheil, merci, chef du service économie d'Europe 1.
Alors qu'aujourd'hui, au Royaume-Uni, le coronavirus, Rémi, serait hors de contrôle.
Ce sont les mots employés par Sadiq Khan, le maire de Londres. Il a déclaré aujourd'hui un état d'incident majeur dans sa ville, la capitale britannique, où les hôpitaux risquent, selon lui, d'être submergés.
En France, ce sont des centaines de milliers de canards supplémentaires qui vont devoir être abattus pour faire face à la terrible épidémie de grippe aviaire.
Oui, alors que 400 000 canards ont déjà été abattus, rien que dans le département des Landes, cet abattage massif va être propagé sur 5 départements désormais, Benjamin Peter.
Oui, concrètement, le ministre a annoncé que les zones d'abattage préventif autour de chaque foyer identifié allaient passer de 3 km aujourd'hui à 5 km, ça veut dire plus de volailles à abattre. Pour cela, les moyens vont doubler. 2 abattoirs sont déjà réquisitionnés actuellement et Julien de Normandie a annoncé que 2 supplémentaires le seront dès la semaine prochaine.
Nous accélérons très concrètement, nous allons doubler les capacités d'abattage des volailles, ce qui veut dire qu'au moment où je vous parle, on a une capacité d'abattage d'environ 80 000 palmipèdes jour. À partir du milieu de la semaine prochaine, on passera à une capacité d'abattage de 160 000 palmipèdes jour.
Alors par ailleurs, des acomptes seront versés très rapidement aux éleveurs à la hauteur de la valeur marchande des bêtes abattues pour permettre une indemnisation rapide. Pour Marie-Pierre Pé, la directrice du CIFOG, qui regroupe une grande partie des producteurs, ces mesures sont à la hauteur de l'enjeu.
La priorité, je le comprends, c'est de très vite dépeupler les foyers et venir au secours des éleveurs qui sont touchés pour que très vite on puisse éviter une propagation sur la zone est du département. J'espère que cela suffira.
Parce que plus à l'est, il y a le département du Gers et la crainte, c'est que dans ce département lui aussi grand producteur de volailles et de foie gras, l'épizootie devienne là aussi incontrôlable.
Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest.
Europe 1, 19h07, c'était aujourd'hui le 25e anniversaire de la mort de François Mitterrand avec un rassemblement, comme tous les ans, à Jarnac. Hein.
Oui, ce qui n'était pas traditionnel, c'est la présence, cette fois devant le tombeau de François Mitterrand, d'Emmanuel Macron, le président de la République, venu déposer lui aussi une gerbe au milieu des habitués de cette cérémonie, ce qui a fait réagir l'un de ses habitués, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste.
Le président Macron a rendu hommage au général de Gaulle. Il s'est mis dans les pattes du président Pompidou, il a rendu hommage au président Giscard, il fait une politique de Nicolas Sarkozy et maintenant il vient sur la caveau, sur François Mitterrand. Ça prouve qu'il a compris qu'il avait finalement hérité non pas d'un ancien monde, mais d'un monde sur lequel se sont construits les Français. Bon, maintenant, qu'y a-t-il de commun entre François Mitterrand et Emmanuel Macron? Aucun électeur de gauche ne peut croire au clin d'œil. Donc, même le voudrait-il, il ne le pourrait pas. Donc, je crois qu'il a compris ça et que son œil gauche est un peu en panne, donc l'œil droit marche bien.
Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, interrogé à Jarnac par Jean-Rémy Baudeau.
Et on reparlera de François Mitterrand et de son héritage dans un instant avec Jacques Attali, Catherine Ney et Jean Garrigue.
Les démissions se succèdent dans la haute administration américaine et jusqu'à la Maison-Blanche. Donald Trump est de plus en plus isolé et menacé de poursuites judiciaires. Il tente désormais de se dissocier des manifestants qui ont envahi le Capitole.
Et on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François, comme tous les soirs dans ce journal. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, Donald Trump a enfin accepté de reconnaître Joe Biden comme le futur président des États-Unis.
Voilà. Dans la vie courante, on appelle ça faire canard. Vous savez, après une grosse bêtise, hein, épaules courbées, regard fuyant, on tente de se faire oublier, comme un gamin pris en faute qui cherche à éviter la punition. Eh bien, c'est exactement ce qu'est en train de faire Donald Trump quand il se déclare maintenant scandalisé par la violence. Mais il a quand même fallu que le vice-président envisage un possible recours à l'article 25 de la Constitution qui le priverait de tous ses pouvoirs pour que Donald Trump revienne, un tant soit peu, à la raison. C'était une menace d'ailleurs qui avait peu de chances d'être effectivement mise en œuvre en raison des délais institutionnels, mais elle a eu un poids politique énorme parce que c'est à ce moment-là que Donald Trump a compris que cette fois il avait été trop loin et qu'il avait été lâché par la vaste majorité des élus républicains. Parce que refuser de reconnaître sa défaite contre l'évidence, hein, malgré les comptages, les recomptages, les recours judiciaires rejetés. Bon, c'est un accro sérieux au pacte démocratique, puisque c'est remettre en cause le fondement même du système parlementaire, qui est normalement d'accepter justement la sanction légale de la majorité, mais ce n'est pas justement illégal. En revanche, appeler ses partisans à marcher sur le Parlement pour tenter d'empêcher l'alternance, c'est légalement un acte de sédition. Donald Trump a bien franchi le Rubicon et il risque gros devant la loi.
Et William Barr, son ancien ministre de la Justice, l'a même accusé d'avoir trahi la fonction présidentielle.
Oui, parce que ce sont des charges graves. Il y a quand même eu un policier, 4 manifestants tués, dont une femme abattue dans l'enceinte du Congrès, hein, imaginez-vous. Donc évidemment, des enquêtes vont être ouvertes. D'autres investigations qui, elles, avaient été bloquées pendant sa présidence pourraient également être relancées. Parce que dans 2 semaines, bah, Donald Trump, il n'aura plus d'immunité présidentielle et surtout, il ne bénéficiera plus d'une majorité parlementaire prête à le couvrir à n'importe quel prix. Bien au contraire, en incitant ses militants à s'attaquer aux élus, ben il a fait chez eux, dans leur rang, des ennemis terribles, jusque dans son propre camp, et il s'est préparé un avenir judiciaire qui s'annonce difficile.
Merci Didier François et Donald Trump qui annonçaient aujourd'hui dans un tweet qu'il n'assisterait pas à la cérémonie d'investiture de son successeur Joe Biden.
C'était le journal de Rémi Bossaron. Merci Rémi, on vous souhaite un bon week-end.
Peut-être un mot de sport simplement pour finir, mais ça m'empêchera
pas de passer
un bon week-end.
C'est ma faute.
Avec la deuxième victoire en ski de la saison pour Alexis Pinturo, le champion de Courchevel s'impose aujourd'hui dans le géant d'Abel de Boden en Suisse. Une victoire qui ravit évidemment le skieur français sur l'un des grands rendez-vous de la saison pour les géantistes.
Adel Boden, c'est la piste mythique du géant. C'est la piste où on a toujours envie de briller, d'être le plus possible au maximum de sa forme. Et puis aujourd'hui, bah, ça a été le cas. Alors c'est sûr que je fais une grosse différence sur la première manche. Et puis après, j'essaye de m'accrocher sur la deuxième. Et puis voilà, ça a donné un beau résultat. Alors on aimerait faire ça devant des spectateurs. Mais cette année, c'est comme ça. Et je pense qu'on peut être déjà très heureux. Et ça reste toujours aussi mythique de venir ici à Adel Boden. Maintenant, c'est sûr qu'il y a encore une troisième course demain en géant. Mais on va déjà essayer de se reposer au maximum. L'enchaînement va être difficile entre les deux géants et puis le slalom de dimanche.
Et c'est une victoire qui permet à Alexis Pinturo de conforter sa place de leader au classement général de la Coupe du Monde. Et demain, il saignera sur le deuxième géant disputé à nouveau à Adel Boden, qu'il prononce très bien lui.
Cette fois, je peux vous souhaiter un bon week-end. Merci,
merci
Rémi Bossaron. Anissa Haddadi, demain, une France coupée en deux, soleil au nord, gris dans le sud.
Oui, avec des Pyrénées à la Côte d'Azur et sur tout le pourtour méditerranéen, un ciel couvert avec de la neige en plaine. Et sur le piémont pyrénéen, le Roussillon sera également concerné par la neige et des averses tout au long de la journée. En Corse, le ciel est couvert, pluvieux, avec un risque d'avalanche sur l'île de Beauté. Et puis sur la moitié nord, et en particulier de l'Alsace à la région lyonnaise, en passant par la Bourgogne, les brouillards matinaux auront vraiment du mal à se dissiper. Donc pas mal encore de nuages bas dans l'après-midi. Sur le quart nord-ouest de la Bretagne, à la région parisienne et jusqu'aux Ardennes, nous aurons de belles éclaircies demain après-midi. Les températures toujours aussi froides avec moins de 10 à 3 degrés demain matin. 0 à Paris, 2 à Marseille et 4 pour Bastia. Et puis 0 à 12 degrés demain après-midi. 2 à Nancy, 4 pour Paris, 6 à Nîmes et 12 la maximale pour Nice.
Merci beaucoup Anissa. Et pour une fois, on est content d'habiter au nord. 19h13 sur Europe 1, comme tous les soirs, on ouvre le Club des idées d'Europe 1. On va s'intéresser dans un instant à l'héritage de François Mitterrand, 25 ans après sa mort. Mais d'abord, c'est la carte blanche du jour avec Julia de Funès.
Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupée de la réalité.
Bonsoir Julia de Funès.
Bonsoir Isabelle.
Je vous avoue que je comptais aller acheter une galette des rois ce week-end, ça sera ma première, mais je vais quand même attendre d'entendre ce que vous avez à nous dire sur le sujet.
Vous allez y aller encore plus convaincue.
Je ne sais pas, en tout cas il n'y a pas de petit sujet, même pour une philosophe, allez-y.
Non, c'est un sujet léger en apparence, parfois un peu lourd en bouche, mais je me suis toujours demandé, et je me demande de plus en plus avec étonnement, pourquoi la galette résiste et connaît un franc succès, alors qu'elle est politiquement absolument incorrecte.
Ah ouais.
Vous allez voir qu'elle est traditionnelle, nationale, sociale, bourgeoise, machiste, royaliste.
Tout et ça, oui, ça voilà. Pèse sur l'estomac. Hein.
Tout ça. Je vous donne quelques exemples. La galette coûte cher en boulangerie. Elle est discriminante, anti-égalitariste. C'est le dessert copieux d'un bon repas bourgeois. Même si on vise, c'est vrai, sa démocratisation en la vendant parfois en part ou en la congelant pour un encas plus bohème, moins onéreux. Elle est traditionnelle, bien sûr. Elle fait référence à un héritage chrétien. Or, l'héritage, c'est quoi? C'est une inscription dans un temps long, c'est une histoire, c'est une dépendance temporelle, religieuse de surcroît, et qui ne va pas de pair avec notre idéologie actuelle du temps présent, de l'instantanéité, du momentané, du détachement temporel et du déracinement spirituel. Autre exemple, à l'heure du world food et de la multiplicité des cuisines exotiques, cette coutume culinaire reste principalement européenne.
Oui.
Tous les pays européens, ou presque, la savourent, mais chacun reste néanmoins maître de sa recette et de sa date. Est-ce que vous saviez que l'Italie la termine le 6 janvier, quand justement la France commence
ça,
la galette des rois.
Complètement.
Donc c'est un produit plus européen qu'international et qui n'empiète toutefois pas sur la souveraineté nationale. Elle permet, je pousse un peu le raisonnement, j'abuse un peu, mais elle permet de penser ensemble souveraineté et Europe, ce qui n'est pas si facile en ces sombres temps idéologiques et politiques parfois. On parle de l'intérieur de la galette, aérée en surface, mais compacte en profondeur. On sent très fort les unités caloriques sous cette matière dense et fondante. Elle
oui,
est gourmande.
Ça je vous confirme, c'est dense, fondant et calorique.
Elle est gourmande et ça ne va pas du tout avec les exigences diététiques, hygiénistes du moment.
Non.
Donc se faire plaisir, valoriser le plaisir contingent alors que les stratégies nutritionnelles les plus rigoristes ne visent que le strict besoin, ça ne va pas du tout avec ces temps de galette. Elle est enfin l'occasion de tirer au sort un roi, une reine. Aucun mérite, aucune convention citoyenne, pas de référendum. Pas
on
de
va sous la table quand même. Hein, ça,
oui, c'est vrai. Pas de débat participatif, toutes ces choses bien à la mode. Que de la chance et du hasard. Pas plus inégalitaire et anti-républicain que ce retour d'un privilège royal soudainement accordé. Enfin, machiste, la galette est bien celle des rois. Comment nos féministes les plus combatives, les plus hargneuses ne s'insurgent-elles pas de cette discrimination de genre, raquant une galette des reines, des transgenres, des cis, des queers et des non-binaires?
Oui.
Bref, vous voyez que les galettes résistent sur bien des points de notre culture et de notre politiquement correct. C'est un des derniers aliments par lequel on conjure cette moraline dont on a de cesse d'être aujourd'hui sommé. Donc la galette n'est pas seulement un réflexe culinaire, un rituel, c'est un signe alimentaire, une des dernières approbations de notre symbolique culturelle.
La galette des rois, rhabillée pour l'hiver par Julia Tunès. Rassurez-moi, vous aimez ça quand même?
J'adore.
Bon, et ben moi aussi je penserai à vous si j'ai la fève ce week-end. Merci beaucoup, c'était la carte blanche de Julia de Funès.
Europe 1, Isabelle Millet.
Catherine Ney, Jacques Attali, Jean Garrigue s'installent dans ce studio pour le débat du Club des idées. On va parler dans un instant de François Mitterrand et de son héritage 25 ans après sa disparition. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Il est 19h18, merci à vous d'écouter Europe 1. Il y a 25 ans, tout juste, disparaissait François Mitterrand. Le 8 janvier 1996, premier président socialiste de la 5e République, le seul à avoir effectué 2 septennats. Emmanuel Macron s'est recueilli aujourd'hui sur la tombe de son prédécesseur à Jarnac. Et on va prendre le temps ce soir de revenir sur ces 14 années de la vie politique française. Et pour cela, je suis entourée ce soir des meilleurs spécialistes. Bonsoir Catherine Ney.
Bonsoir Isabelle.
Vous avez publié 2 ouvrages qui sont consacrés à l'ancien président, Le Noir et le Rouge ou L'histoire d'une ambition chez Grasset, et puis Les 7 Mitterrand ou Les Métamorphoses du Septennat également chez Grasset. Jean Garrigue, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, spécialiste d'histoire politique, président du comité d'histoire parlementaire, auteur de Les Perdants Magnifiques de 1958 à nos jours aux éditions Talendier. Et puis Jacques Attali, bonsoir Jacques Attali.
Bonsoir.
Écrivain, principal conseiller de François Mitterrand, vous êtes l'un de ceux qui connaissaient sans doute le mieux l'ancien président. Vous avez écrit « C'était François Mitterrand » aux éditions Fayard. Bonsoir et merci vraiment beaucoup à tous les trois de m'accompagner ce soir pour ce débat du Club des idées d'Europe 1. Et c'est donc l'image du jour, Emmanuel Macron à Jarnac, sur la tombe de François Mitterrand. Après avoir célébré De Gaulle, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, le président poursuit donc son itinérance sur les traces de ses prédécesseurs. Et ça n'est que le début, hein, puisque cette année 2021 sera l'année Mitterrand Mitterrand. On commémore aujourd'hui le 25e anniversaire de sa mort, mais on fêtera cette année le 40e anniversaire de son élection. Et on a choisi, nous, ce soir sur Europe 1, de revenir sur ces deux septennats, ces 14 ans à la tête de la France, sur ce président du changement qui deviendra ensuite celui de la rigueur avant d'être le premier à gérer une cohabitation, et même deux. Alors on va, si vous le voulez bien, revisiter ensemble ce double septennat, ces grandes réformes, ces temps forts. On s'interrogera aussi en fin d'émission sur l'héritage de François Mitterrand. Mais d'abord, ce 10 mai 1981, le président sortant Valéry Giscard d'Estaing battu, un socialiste qui accède au pouvoir, c'est le coup de tonnerre.
3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Le peuple de gauche en liesse en ce 10 mai 1981, plein d'espoir, rose rouge à la main. Pourquoi ce souffle ? Avec quel espoir François Mitterrand arrive-t-il, Jean Garrigue ?
Parce que depuis 1936, la gauche, les socialistes se sentaient dépossédés du pouvoir. Et c'est vrai que sous la Ve République, ils n'avaient pas gouverné. En réalité, ils avaient gouverné un petit peu sous la Quatrième République, à travers des coalitions et puis à travers le gouvernement de Guy Mollet en 1956. Mais disons que là, il y avait une attente historique. Il y avait quelque chose en plus d'inattendu parce que François Mitterrand, jusqu'en 1971, jusqu'au moment où il prend la tête du Parti Socialiste, n'est pas encore socialiste, paradoxalement. Et le grand mérite de Mitterrand, ça va être de trouver une stratégie qui est au fond d'abaisser le Parti communiste en s'alliant avec lui pour amener la gauche au pouvoir. Et là, il y a une reconnaissance, d'ailleurs, qui dure, je pense, encore aujourd'hui dans la mémoire de beaucoup de militants de gauche par rapport à François Mitterrand, d'avoir rompu ce cycle de d'échecs, de défaites qui étaient dus notamment aux institutions de la Ve République, et puis d'arriver comme ça au pouvoir, d'amener enfin ce qu'on appelait le peuple de gauche au pouvoir.
Donc il y avait la liesse d'un côté, cette espérance, hein, ceux qui disaient que tout est possible désormais, puis il y avait la peur de l'autre, hein, la peur d'un changement de société. Certains voyaient déjà les chars soviétiques débarquer sur les Champs-Élysées, Catherine Ney.
Oui, mais enfin, surtout l'arrivée de François Mitterrand, justement, parce que la gauche arrive au pouvoir après 23 ans d'opposition au gaullisme, il y a eu un état de grâce comme n'a connu aucun président de la Ve République. Ça a duré plus de 6 mois. 74% des gens étaient ravis de l'élection, surtout qu'on leur avait promis qu'on allait recruter 1 million de jeunes pour le chômage. Enfin, et la campagne avait si bien marché qu'en 81, 84% des gens pensaient que c'était l'État qui doit créer des emplois et 59% qu'il fallait nationaliser toutes les banques. Donc, ils étaient d'accord avec le programme. Ils étaient socialistes en disant « ça va marcher, c'est une solution nouvelle, on en a marre du libéralisme », comme si le libéralisme avait existé en France. En tout cas, Mitterrand a été reçu, élu comme un héros et encensé par ses proches comme personne. Quoi, les turiféraires avec Jacques Lang, qui avait toujours l'encensoir à la main. Donc, c'était une forme de liesse et d'éblouissement.
Et la grande cérémonie du Panthéon,
dans
laquelle il s'auto-panthéonise en allant mettre des roses.
Une rose à la main et puis une autre, encore une autre.
Jaurès.
Cérémonie, oui.
Il s'inscrit quand même dans l'histoire, et je ne veux pas monopoliser la parole, mais dans l'héritage de Jaurès, Léon Blum, c'est le troisième homme, en fait.
Alors, en 14 ans, on a le temps d'en faire des choses. François Mitterrand a initié, vous le disiez, plusieurs grandes réformes. L'une des plus symboliques, c'est l'abolition de la peine de mort, votée dès l'automne 81 et portée par le garde des Sceaux Robert Badinter.
Le choix qui s'offre à vous, en cet instant, à vos consciences, car vous allez vous prononcer, ce choix est clair, cette justice d'élimination, d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur, triomphant de la raison et de l'humanité.
Le ministre de la Justice, Robert Badinter, à la tribune de l'Assemblée nationale, 17 septembre 81, on est 5 mois seulement après l'élection de François Mitterrand, qui a voulu frapper fort dès le début, hein, Jacques Attali.
Oui, j'ai entendu tout ce qui précède. Permettez-moi de vous dire d'abord d'où je parle. J'espère que vous avez des auditeurs assez jeunes pour ne pas savoir qui je suis depuis longtemps. J'ai rencontré François Mitterrand à 20 ans, en 1964 ou 65. Non, juste après 21 ans, juste après son élection présidentielle manquée de 65. Je lui ai proposé de travailler avec lui. Nous avons commencé à travailler ensemble à partir de 73, de façon très approfondie. J'ai dirigé sa campagne de 74, qui a été la plus formidable, y compris le débat contre Giscard. Je dirigeais son cabinet pendant toute la période d'opposition et de la campagne législative de 78. J'ai de nouveau dirigé la campagne de 81, et à partir de 81, en effet, j'étais dans le bureau d'à côté de lui pendant 10 ans.
Et vous êtes donc l'une des personnes, sans doute, qu'il connaît le mieux, en tout cas, autour de cette table. Pour en revenir, Jacques Attali, pour en revenir à cette abolition de la peine de mort, c'était vraiment cette intention d'aller très vite, très fort, de marquer les esprits dès le début du premier septennat.
C'est amusant que vous citiez ça, parce que c'est très intéressant. François Mitterrand était très loin dans les sondages jusqu'en 1980 et quelques mois. Et en 81, début 81, dans une émission qui a lieu à France Télévisions, deux journalistes alors très connus, Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabbach, lui posent sans préavis d'aucune sorte, alors qu'ils avaient demandé à me voir pour préparer l'émission et avaient préparé avec moi toutes les questions, sans préavis d'aucune sorte, et comme un piège en fait tendu à François Mitterrand, il lui pose à la fin de l'émission, presque au moment du générique, la question « Monsieur François Mitterrand, un sondage vient de sortir disant que les Français sont pour le maintien de la peine de mort, vous êtes contre, qu'est-ce que vous avez à dire ?» Pensant, je pense, lui donner un coup de jardac final, si j'ose dire. François Mitterrand répond très calmement qu'en effet, il sait que les Français sont contre, mais que lui, en son âme et conscience, il est pour l'abolition, pour des raisons morales, éthiques et religieuses. Et ce qui ne devait pas se passer est arrivé, c'est-à-dire que le lendemain, les sondages se sont inversés et les sondages sont passés de 58-42 en faveur de M. Giscard d'Estaing à 58-42 en faveur de François Mitterrand, puisqu'il avait montré aux Français qu'il était sincère sur ce point. Et donc les Français ont pensé que s'il l'était sur ce point, au point d'afficher une opposition impopulaire, il le serait sur le reste.
Vous voulez dire que ça a contribué à son élection ?
Très largement. Cette émission a été déterminante, malgré un contresens de ceux qui l'avaient orienté ce piège.
Bon, en tout cas, tout partait bien dans ce premier septennat, et puis arrive 1983, le tournant de la rigueur que François Mitterrand annonce lui-même d'ailleurs dès la fin 82 sur Europe 1.
Pour faire face à la crise et pour assurer le redressement national, j'en ai appelé à l'effort, mais dans le dernier plan rigoureux, notre objectif ce n'est pas la rigueur, c'est le redressement. Mais il faut de la rigueur pour ce redressement.
Ça va être dur, les Français n'imaginaient peut-être pas encore à quel point, hein, Jean Garrigue, le nouveau souffle dont on parlait tout à l'heure, qui va retomber comme un soufflet, si on peut dire ça comme ça. Mars 83, défaite de la gauche au municipal, il faut remettre peut-être dans le contexte, hein, la conjoncture économique est difficile, la France qui creuse sa dette, à ce moment-là tous les voyants sont au rouge. Hein.
Tous les voyants sont en rouge. Il faut dire que le programme les 110 propositions de François Mitterrand qui l'ont conduit au pouvoir était un programme extrêmement de rupture, extrêmement révolutionnaire et qui a marqué la retraite à 60 ans, les 39 heures, les lois au roux, un plan de nationalisation qu'on n'avait pas connu depuis la libération. C'était quelque chose de très ambitieux qui reposait sur la relance économique, sachant que les socialistes, là, étaient confrontés à ce que déjà avait connu Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire la crise, c'est-à-dire la montée permanente du chômage, des problèmes d'inflation, etc. Et là, les solutions qui ont été prises en 1981, très très vite, ont été jugées, en tout cas par ceux qui étaient en charge des finances, et notamment Jacques Delors, ont été jugées incompatibles, au fond, avec ce qu'était l'environnement international. L'idée de la rigueur, l'idée d'un tournant, dès 1982, elle est là, elle fait débat, elle est discutée. François Mitterrand rechigne, François Mitterrand n'y est pas favorable, Pierre Mauroy hésite. Enfin, ça a été quelque chose d'assez dur, d'assez douloureux à opérer, ce virage.
Et on va y revenir dans un tout petit instant sur Europe 1, avec mes invités Catherine Day, Jean Garrigue et également Jacques Attali qui est en direct avec nous. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
19h30, c'est la suite de votre débat du Club des Idées sur Europe 1. Et on prend le temps ce soir de revenir sur les 14 années, les deux septennats de François Mitterrand, puisque vous savez qu'il y a 25 ans, tout juste, disparaissait l'ancien président. On en parle ce soir toujours avec mes invités, Jacques Attali, Jean Garrigue et Catherine Ney, qui sont à mes côtés. On évoquait tout à l'heure la mise en place d'une politique de rigueur que l'on désigne comme un tournant.
Mais une politique de rigueur après des dépenses somptuaires, je veux dire, les salaires plus 18%. Le SMIC plus 10%, les minimums vieillesse. Enfin, les dépenses augmentent de 27,5%, les déficits multipliés par 3. En mars 82, les prix flambent, les investissements sont en panne et on s'aperçoit qu'en augmentant les salaires, ça augmente les importations et au contraire, il y a moins de production française parce que c'est les 39 heures déjà payées 40 alors que les Allemands travaillent 45 heures par semaine. C'est toujours le vieux débat. Donc, il y a eu un premier plan de rigueur en mars 82, puis un deuxième, et puis le franc va être dévalué 3 fois, et on est la risée des pays qui nous entourent. Donc, après les municipales, ce qui est extraordinaire, c'est que Mitterrand, l'Européen, pendant 8 jours, s'est demandé s'il ne sortait pas de l'Europe, s'il ne s'enfermait pas dans l'isolement.
L'Européen, voilà. On va en parler.
Oui.
On ne peut pas parler de François Mitterrand sans parler d'Europe, évidemment, et du couple franco-allemand, avec cette photo, notamment, qui restera dans les livres d'histoire. Nous sommes à Douaumont, le 22 septembre 1984. André Ancian, pour Europe 1, nous raconte ce moment où Helmut Kohl et François Mitterrand se recueillent main dans la main.
Ils ont planté ensemble un arbre, symbole d'un avenir prometteur de fraternité et de paix. Et puis, pendant l'exécution des hymnes nationaux, hier soir, François Mitterrand et Helmut Kohl se sont tenus par la main. Geste chargé d'émotion, mais qui illustre aussi la profonde communauté de vues entre le président socialiste français et le chancelier chrétien-démocrate allemand.
Jacques Attali, elle était extrêmement symbolique, cette photo du président français.
Je suis très fâché de tout ce que je viens d'entendre et le fait qu'on ne m'ait pas donné la parole précédemment.
On vous la donne.
Tout ce que j'ai entendu, c'est de la propagande de droite classique, telle qu'on l'entendait à l'époque.
On n'est pas là pour faire de la propagande, je pense. Mais bon,
excusez-moi, c'est ce que vous venez de faire jusqu'à présent.
On vous écoute.
Il n'y a absolument eu... Je reviens sur le tournant.
Sur le tournant, qui n'a pas été accepté par une partie de l'électorat de gauche.
Il n'y a pas eu de tournant.
Ça, c'est la propagande socialiste qui dit ça.
Excusez-moi, est-ce que je peux m'exprimer, s'il vous plaît ? Vous avez fait assez de propagande pour que je puisse répondre. Il n'y a pas eu de tournant. Comme l'a dit très justement l'autre interlocuteur tout à l'heure, il y a eu un très grand nombre de lois de réformes qui ont été faites, en particulier de réformes économiques et sociales. S'il y avait eu tournant, toutes ces réformes eût été abrogées en mars 83. Aucune n'a été abrogée. Ni la retraite à 60 ans, ni les 39 heures, ni les lois, aucune n'a été abrogée. Elles ont été mises en application. Et encore moins les nationalisations. Il n'y a pas eu tournant à droite, ce qui aurait signifié cette abrogation. Il n'y a pas eu non plus de tournant à gauche, qui aurait été en effet l'abandon du système européen et la sortie de l'Europe, qui nous amène à votre deuxième sujet. Donc il n'y a pas eu de tournant en mars 83. Il y a eu un ralentissement dans la politique conjoncturelle de hausse des salaires. Point final. Ce mythe du tournant qui veut toujours installer dans l'esprit français que la gauche au pouvoir ne peut qu'échouer est faux. Les entreprises qui ont été nationalisées, si elles ne l'avaient pas été, elles auraient été en faillite.
Jean Garrigue, vous pouvez le partager peut-être
L'inflation dont on parlait tout à l'heure était en fait héritée en 1981 à 14% et François Mitterrand la ramène autour de 5%. Donc assez avec ces mythes qui continuent 40 ans plus tard. C'est absurde. Bon,
en tout cas, comme ça, chacun aura eu la parole sur ces sujets. Jean Garrigue, peut-être vous pouvez départager.
Un tournant 84 complet, là.
Il est vrai que ce qui se passe en 82-83 n'est pas conçu par François Mitterrand, ni même par Pierre Mauroy, comme un tournant. C'est une inflexion, mais disons qu'il y a un certain nombre de paramètres dans l'économie mondiale qui vont faire que des choses vont changer. Et c'est vrai qu'on va arrêter, je veux dire, la dynamique de réforme qui avait été lancée en 1981. Ça n'est pas un tournant, je dirais que...
Le programme avait été mis en œuvre.
Oui, c'est vrai, l'essentiel avait été mis en œuvre. Et ça pourrait s'apparenter un peu à ce que Léon Blum avait appelé en 1937 la pause dans les réformes.
Voilà. Alors ce qu'on voit en tout cas, c'est que François Mitterrand, c'est un homme qui continue encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, à susciter les passions. Il y a une chose qui va vous réconcilier tous, je pense, autour de cette table, c'est justement la réconciliation franco-allemande, qui est l'axe majeur pour assurer la permanence de la paix en Europe, Catherine Ney. c'était quelque chose de très important, qui était cher au cœur de François Mitterrand.
Oui, puis je crois que les deux hommes se sont très très bien entendus parce qu'ils avaient une histoire commune, parce qu'ils avaient fait la guerre, chacun de son côté, en avait connu les horreurs, avait mesuré que vraiment l'entente franco-allemande était quelque chose de très très important. Et le chancelier n'était pas de gauche, c'était un conservateur, enfin un CDU, et François Mitterrand, le socialiste, ils se sont très très bien entendus. Et ça a été un des couples franco-allemands avec Giscard Schmitt, c'était l'inverse, qui se sont le mieux entendus et ils ont beaucoup œuvré aussi. Quand Mitterrand a choisi de choisir l'Europe, c'est une des réussites de François Mitterrand.
Oui, je crois qu'on ne peut pas comprendre l'attachement européen de François Mitterrand, qui est quand même un des axes majeurs de ces deux septennats. Et qu'il considérait comme quelque chose de fondamental, si évidemment on ne revient pas au François Mitterrand de la guerre. C'est-à-dire que c'est cette expérience de guerre qui conduit à ce parcours d'Européen et de grand Européen.
Parce qu'il a été lui-même prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale. Je voudrais qu'on écoute ensemble ce que disait François Mitterrand. C'était en 1992, justement, sur l'Europe.
Je lui dirais, tu as une patrie, elle est belle, elle est grande, et elle sera de plus en plus forte. Donc je lui donnerai un avenir, une espérance, une volonté. Et en même temps, je lui garantirai la paix. On dit que les chances de développement seront infiniment plus fortes dans un grand marché que s'il était réduit au marché français.
Voilà ce qu'aurait dit François Mitterrand en 1992 à un jeune Français qui l'aurait interrogé. L'Europe, il y a aussi cet héritage, on le voit, on l'a encore entendu aujourd'hui avec Emmanuel Macron qui s'est rendu à Jarnac sur la tombe de François Mitterrand, Jacques Attali. Hein. Ça, c'est un point commun qu'il y a entre les deux présidents.
C'est un point commun. C'est un point commun qui est celui de la volonté de laisser une trace dans l'histoire, de considérer que la construction européenne est essentielle. J'ai eu le privilège de participer à tous les entretiens de François Mitterrand avec Helmut Kohl, à peu près une fois par mois, de parler au téléphone avec le chancelier et ses collaborateurs au moins une fois par semaine pendant 10 ans. Ce que vous avez dit précédemment est tout à fait exact, les uns et les autres. Il y avait François Mitterrand, quand il avait des choix à faire, il choisissait l'Europe d'abord. Et il a choisi l'Europe avant le socialisme, pensant que le socialisme pouvait attendre et que l'Europe ne pouvait pas attendre. Donc ça, c'est un choix majeur qu'il a fait, qui a permis, je reviens une dernière fois là-dessus, qu'en 83, il n'y ait pas de tournant à gauche, ni de tournant
vous
à droite.
Vous y revenez.
Et la poursuite.
Et qu'il y a eu un tournant en 84.
Je ne vois pas de quoi vous parlez en 84, parce qu'en 84, je ne vois pas ce
mais
dont
vous parlez. Mais en 84, on ferme les mines de charbon qu'on avait réouvertes en 80 parce que ça coûtait très cher. On avait embauché 8000 mineurs marocains. On règle le problème de la sidérurgie qu'on qualifie de canard boiteux. Je peux vous dire qu'en Lorraine, on a trouvé que c'était quand même un sacré tournant. Et on parle de profit alors que c'était un mot qui était exclu du discours de Mitterrand dans son livre « Changer la vie ».
C'est ce que la droite voulait faire croire, que c'était exclu. Ça n'était pas du tout dès 1974. Si vous regardez le programme présidentiel de 1974...
On n'arrivera pas à vous départager là-dessus, j'ai l'impression. On va avancer un petit peu dans le temps. Allez, on arrive en 86, situation institutionnelle inédite. La droite remporte les législatives. François Mitterrand nomme alors Jacques Chirac.
Le peuple français a fait son choix. Il a élu une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale et par là même... Il a approuvé une nouvelle politique pour notre pays. Le président de la République m'a proposé d'exercer la fonction de Premier ministre dans une situation nouvelle sous la Ve République.
Là, pour le coup, c'est un vrai tournant. Jacques Attali, première expérience de cohabitation.
Oui,
comment François Mitterrand a-t-il vécu ce moment ?
C'était absolument passionnant. Je me souviens, en effet, comme vous l'avez dit à l'instant, c'était tout à fait nouveau. Il n'y avait pas eu de cohabitation avant et aucune règle n'était fixée. D'ailleurs, je crois avoir compris assez vite que Jacques Chirac était convaincu que François Mitterrand serait forcé de démissionner. Mais on n'avait pas de règle, on ne savait pas ce que François Mitterrand pourrait faire.
Et vous ne lui aviez pas conseillé vous-même à François Mitterrand de partir parce qu'il était battu ?
Non, absolument pas.
Ah bon,
absolument
pas.
Absolument pas, jamais, pas une seconde j'ai pensé à ça, ni personne d'ailleurs, jamais. Monsieur Giscard d'Estaing lui est parti à Rambouillet. Mon obsession c'était que François Mitterrand garde le contrôle de la politique étrangère. Et pour cela, il a accepté que le secrétaire général de l'Élysée et moi nous assistions au Conseil des ministres face à un gouvernement de droite. Il a choisi, contre l'avis de ses amis politiques, je me souviens d'un déjeuner juste après les élections présidentielles, législative où tous les socialistes lui disaient « il faut nommer Giscard, il faut nommer Simone Veil », où il disait « pas du tout, il faut affronter le problème de face et nommer Chirac », et lui laisser tout le pouvoir en politique intérieure, mais aucun pouvoir, ni en matière de défense. Et François Mitterrand contrôlait très, 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 très étroitement l'action en matière de stratégie nucléaire et de défense, et en politique étrangère. Et ce qui fait d'ailleurs que...
Je voudrais aussi
qu'on ait d'ailleurs que la cohabitation s'est installée très très précisément ainsi, et ensuite toutes les autres cohabitations ont suivi ce modèle.
Je voudrais qu'on ait l'œil de Jean Garrigue, historien spécialiste d'histoire politique, justement sur cette première expérience de cohabitation.
Oui, c'est un des grands mérites de François Mitterrand et de Jacques Chirac d'ailleurs, mais surtout de François Mitterrand, d'avoir admis ce qui était à l'époque, il faut le rappeler, contesté par beaucoup, Raymond Barre le premier, qui était très hostile à cette idée de cohabitation, qui ne pensait que ça ne pourrait pas marcher. Et en fait, si on réfléchissait vraiment fondamentalement à ce que recherchent les Français, je pense que c'est presque la meilleure solution que d'avoir un président de gauche et un Premier ministre de droite. Mais en l'occurrence, ils ont réussi à faire fonctionner cet attelage qui n'allait pas de soi. Il y a eu quelques petites scories, quelques anicroches au début, notamment pour la participation au sommet international, etc. Mais bon an, mal an, ça a quand même plutôt fonctionné. Et le grand mérite de François Mitterrand, ça a été surtout de construire à travers ça son image de rassembleur, de donner à Jacques Chirac la place du mauvais élève, de celui qui était disruptif, celui qui endure aussi, qui prend sur ses épaules le poids des échecs de son gouvernement, qui divise, et puis de construire sa campagne de réélection en 1988. Donc c'est à la fois pour l'histoire quelque chose de fort, parce que ça construit, je pense, cette alternance et cette cohabitation qui par la suite s'est reproduite. Et puis pour François Mitterrand, ça a été le marchepied de sa réélection.
Catherine, la cohabitation à ce moment-là, c'était la bonne solution?
Les Français étaient un peu grisés au départ en pensant que c'était l'alliance de deux camps et que ça allait être formidable. Et ça ne l'a pas été, parce que c'était deux politiques qui étaient face à face. Et moi, je crois que Jacques Chirac, qui a voulu qu'il avait une lecture de la Constitution, voulait se mêler de politique étrangère et a eu le tort de vouloir venir sur le terrain de François Mitterrand, qui a su, évidemment, avoir le dernier mot. Et c'était, en fait, Jacques Chirac laissait la conduite des affaires à Édouard Balladur, le ministre d'État, Et donc, très très vite, Mitterrand, agacé par l'activisme de Jacques Chirac en matière étrangère, en disant « Écoutez, gouvernez, faites la politique intérieure et laissez-moi faire. » Donc je pense que Mitterrand était très, très, très agacé par Jacques Chirac et il l'a freiné de son côté sur les ordonnances en refusant de signer, parce que rien ne l'y contraignait d'ailleurs, ce qui a ralenti beaucoup la marge des affaires. Et puis il y a eu la réforme... La réforme de la loi de Vaquet de l'université, auquel on a prêté des visées qui n'y étaient pas, et on a fait sortir l'éducation nationale dans la rue, et puis on sait comment ça s'est terminé avec la fameuse mort de Malik Oussekine. Oui.
En tout cas, le 8 mai 88, François Mitterrand est réélu face à Jacques Chirac, et il nomme Michel Rocard Premier ministre.
L'ouverture prendra sa réalité quand on se sera aperçu qu'au-delà du bloc socialiste, il y a des gens qui se reconnaissent dans les références choisies, celle de la solidarité, celle de la modernisation de notre économie. Tout cela passe par des choses sur lesquelles peut se retrouver une majorité plus large que l'actuelle.
Jacques Attali, ce choix, c'est la réconciliation entre deux hommes qui s'étaient opposés pour le leadership de la gauche, mais est-ce que c'est vraiment une réconciliation?
Non. Pas vraiment. François Mitterrand n'a jamais cru que Michel Rocard était un adversaire pour lui, tout simplement parce qu'il ne le pensait pas capable d'être président de la République. Il me l'a dit mille fois, il l'a exprimé. D'une certaine façon, avec Michel Rocard, c'était une autre cohabitation. Aussi inévitable. Quand je vous ai dit qu'en 86, François Mitterrand avait dit aux dirigeants socialistes « Il faut qu'on nomme Jacques Chirac, que je nomme Jacques Chirac parce qu'il faut purger cette hypothèque », c'est exactement la même chose en 88, où il pense qu'il faut purger l'hypothèque Rocard pour s'en débarrasser, parce qu'il le pense...
Et il a bien fait ?
Mauvais. Alors, je vous dis ce que je... Moi, j'étais très, très, très ami de Michel Rocard. Et j'étais... D'ailleurs, François Mitterrand, quand il me parlait de Michel Rocard, disait « Votre ami Rocard ». Et donc, j'étais un peu entre deux feux. Mais je pense qu'en effet, avec le recul de l'histoire, que Michel Rocard n'avait pas la stature, la capacité... politique et de grandeur qu'exigerait la fonction présidentielle. Je ne veux pas dire que tous les présidents l'ont eu ensuite, mais qu'exigerait la fonction présidentielle. C'était un homme merveilleux, un ami exceptionnel, un homme intelligent, qui a fait un très bon Premier ministre. Mais François Mitterrand
ne l'aimait pas ou ne le comprenait pas et n'a eu de cesse que de voir finir son mandat.
Vous êtes d'accord, Jean Garrigue, avec Michel Rocard, c'est une autre cohabitation.
Oui, je trouve des mots. D'ailleurs, ils l'ont dit à l'époque, Chirac le disait en riant, etc. Non, évidemment, c'était le mariage de la carpe et du lapin. Ils étaient aussi dissemblables qu'on peut l'être. Et le conflit entre les deux hommes datait de 30 ans, parce que quand il était jeune, Michel Rocard avait beaucoup critiqué l'attitude de François Mitterrand en tant que ministre de l'Intérieur sous la 4e République, la politique algérienne de François Mitterrand. Donc c'était
il avait traité d'archaïque.
C'était un très vieux conflit. Et puis Michel Rocard portait ce qu'on appelait la deuxième gauche, c'est-à-dire une autre forme de projet de gauche qui était la social-démocratie. Sur le bilan de Michel Rocard en tant que Premier ministre a été plutôt positif, me semble-t-il. Mais c'est vrai qu'on voyait bien que c'était les sondages qu'il avait poussés là, que pour Mitterrand, l'idée aussi d'ouvrir vers le centre-gauche justifiait la présence de Michel Rocard à Matignon, mais que tôt ou tard, il mettrait fin à cette expérience qui avait été un peu imposée par les circonstances.
Alors on va avancer un peu dans le temps, parce que justement, le temps, lui, sur l'horloge d'Europe 1, avance. 17 septembre 1992, c'est la révélation de la maladie de François Mitterrand.
Je ne pense pas qu'on m'ait enlevé un lobe du cerveau, car c'est pas de ce côté-là que ça se passait.
L'heure est lycée maintenant, à partir du Conseil des ministres mercredi. Je reprendrai normalement.
Dimanche, ça va être une journée de vacances. Si tout va bien, et il n'y a aucune raison que ça aille mal, c'est un combat honorable à mener contre soi-même.
François Mitterrand au micro européen de Frédéric Elbert. Catherine Ney, aujourd'hui, ça paraît presque banal qu'un président dise qu'il est malade. Ça ne l'était pas du tout à l'époque.
Ben, c'est pas du tout banal, même aujourd'hui, je crois. Enfin, même si personne n'est malade, en tous les cas.
On communique beaucoup plus sur l'état de santé de nos dirigeants.
À Europe, je me souviens, on savait à l'automne 81 qu'il était malade. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a eu des traitements qui ont fait qu'il a été prolongé et que pendant de longues années, eh ben, on n'a pas imaginé qu'il puisse l'être, alors que son médecin l'a raconté, comment dans les voyage officiel, il mettait un compte-gouttes, enfin tout ça, donc il était malade depuis très longtemps.
Il a longtemps hésité à révéler cette maladie, Jacques Attali.
Écoutez, je peux vous raconter, si vous me donnez 2 minutes, parce que ça suppose au moins 2 minutes, et je vais essayer d'être très court. En fin septembre, début octobre 81, François Mitterrand fait venir dans son bureau les 3 collaborateurs les plus proches, qui étaient André Rousselet, Pierre Bérégovoy et moi, et nous dit « Je viens de voir mon médecin, prenez vos dispositions, je serai mort avant la fin de l'année, je veux que ça reste secret, ni ma famille ni le Premier ministre est au courant ». Évidemment, on était tous glacés, on n'avait rien à faire sauf à regarder ce que disait la Constitution. J'ai su après, je vous passe ces détails, qu'en fait le médecin, le très grand médecin, qu'il avait vu, d'ailleurs sur mon conseil, c'est moi qui l'avais envoyé le voir, lui avait dit « vous serez mort dans 12 mois, et pas à la fin de l'année ». Et puis en février, comme il n'était pas mort, j'ai dit à François Mitterrand, c'était en effet une conversation difficile à avoir, je lui dis « mais est-ce que vous avez envie de reprendre le sport ?» Parce qu'avant sa présidentielle, on jouait au tennis. Il me dit « oui, avec plaisir ». Et c'est là qu'on s'est remis à jouer au golf, 2 fois par semaine. Et la première fois qu'on est parti au golf, je lui ai dit « ça va mieux ?» Puisqu'il nous avait dit ça, je n'avais pas eu d'autre conversation que depuis cette annonce de sa mort prochaine. Il me dit « ces imbéciles de médecins se sont trompés ». J'ai su plus tard, par le très grand médecin qui l'avait soigné, qu'il y a eu une régression, que ce très grand médecin, qui ne m'en a parlé qu'après la mort de François Mitterrand, m'a dit être totalement incompréhensible des métastases qui avaient gangréné tout son corps. Et François Mitterrand se croyait sincèrement, je crois, guéri à partir de février-mars 82.
Alors, c'est très intéressant ce que vous nous dites, Jacques Attali. Il y a plein d'épisodes de ces 2 septennats qu'on aurait envie de raconter ce soir. Malheureusement, on est un peu pris par le temps. Évidemment, 93, la deuxième cohabitation, le suicide de Pierre Bérégovoy, la révélation de la vie privée de Mazarine, évidemment, en 94, à Paris Match. Et puisqu'on parle de la santé de François Mitterrand ce soir avec vous, il va terminer ce deuxième mandat très affaibli, sous traitement pour son cancer. Écoutez ses derniers vœux aux Français qui sonnent comme des adieux.
L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses voeux. Je l'écouterai, le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.
Catherine Ney, il y a presque un côté mystique dans ses voeux d'être, au revoir, d'adieu.
Et religieux, et il a renoué avec son éducation, de sa jeunesse, élevé par une mère qui lisait la Bible et qui priait 3 fois par jour. Et Et je pense qu'il est revenu vers ces rives-là à la fin de sa vie. Il a, d'abord parce que je pense que c'est un besoin pour quelqu'un qui doit partir d'avoir une espérance, c'est une forme d'espérance. Mais ce qui était terrible, c'est que la dernière année, on voyait qu'il souffrait. Et c'était un homme qui était devenu un sphinx au teint d'ivoire, qui était comme ça. D'ailleurs, je trouvais qu'il avait même... la maladie l'avait anobli, je trouvais. Il avait des traits beaucoup plus fins. Et donc, on éprouvait de la compassion pour lui et il a été très courageux.
Le 7 mai 1995, Jacques Chirac remporte la présidentielle. 10 jours plus tard, c'est la passation de pouvoir. Et assez rapidement après, François Mitterrand succombera à ce cancer. 25 ans après sa disparition, Jacques Attali, qui sont ses héritiers ou son héritier aujourd'hui ?
Il n'y a pas d'héritier aujourd'hui. Il n'y a pas d'héritier. Il y a toujours une espérance de gauche. C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est Catherine qui l'a dit, Emmanuel Macron était au départ un socialiste. Et c'est comme ça que je l'ai connu, d'ailleurs, quand je lui proposais de travailler avec moi.
Mais oui, on se souvient de ça, votre commission. Voilà.
Bon, pas d'héritier, oui, vous le regrettez, j'imagine.
Ah, pas du tout. Pas le moins du monde. Je pense que à l'heure où nous parlons, au moment où nous parlons, il est le meilleur possible, en particulier pour les grands enjeux internationaux que nous affrontons. Dans le paysage actuel, politique française, il est le meilleur possible. Il n'empêche que l'espérance de gauche, ça reste une expérience d'utopie, de rêve, de justice, d'empathie sociale, et qui doit s'incarner d'abord un programme. François Mitterrand n'eût rien été s'il n'y avait pas eu un grand programme qu'il a mis en œuvre
malheureusement. Jacques Attali, je dois vous arrêter là, malheureusement. Mais je vous promets que sur Europe 1, on va faire d'autres émissions. C'est une année qui va être très largement consacrée à François Mitterrand. On aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup.
Choix.
Merci à tous les trois, Jacques Attali, Jean Garrigue et Catherine Ney, de m'avoir accompagné ce soir dans cette plongée au cœur du mitterrandisme.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et dans un instant, on va vous raconter ce jour de 1972 où le dernier homme a marché sur la Lune. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
On est toujours ensemble sur Europe 1 et dans le Club des idées, on va maintenant plonger, comme chaque jour, dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité, ça s'appelle le jour où.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Europe 1.
Bonsoir Hélène Terzian.
Bonsoir Isabelle.
Alors on connaît bien sûr le premier homme qui a marché sur la Lune, Neil Armstrong, le 21 juillet 1969, mais on connaît beaucoup moins le dernier homme qui a marché sur la Lune. Cet homme, c'est Eugene Cernan. C'était le 14 décembre 1972.
Cela fait 72 heures que Eugene Cernan est donc sur la Lune avec le géologue Harrison Schmitt. Eugene Cernan, c'est le commandant de la mission Apollo 17, ultime mission lunaire habitée de la NASA. Le 14 décembre 1972, l'astronaute de 38 ans, aux cheveux tout blancs sous son scaphandre, est réveillé par les équipes de la NASA à Houston avec cette musique emblématique de 2001, l'Odyssée de l'espace, film de Stanley Kubrick. Avant de quitter la Lune, épuisé par ses 3 jours d'exploration, Eugene Cernan s'accroupit et du bout des doigts écrit 3 lettres dans la poussière du sol lunaire, TDC, les initiales de sa fille, Teresa Dawn Cernan. Il relève la visière de son scaphandre, regarde le paysage, gravit l'échelle de la capsule pour rejoindre son coéquipier. À lui revient donc la charge de refermer pour la dernière fois la porte du vaisseau spatial, le LEM, pour entamer le voyage du retour vers la Terre. Mission accomplie, racontée par l'envoyé spécial d'Europe 1 à Houston, Bernard Chabert.
Adieu la Lune. Les 2 derniers explorateurs du programme Apollo ont regagné Challenger à l'heure prévue, après une dernière expédition d'une 15 kilomètres. C'est la cérémonie d'adieu à la Lune de Schmitt et Cernan qui restera comme le grand moment de cette 3e sortie sur la Lune d'Apollo 17. Il y a eu une plaque de dévoilé sur le LEM qui dit « Ici, l'homme a terminé ses premières explorations de la Lune au mois de décembre 1972. »
Et cette dernière mission lunaire, Hélène, c'est la mission de tous les records.
Celui de la plus longue sortie hors du vaisseau, 22 heures et 4 minutes à la surface de la Lune. Celui aussi du plus gros échantillon lunaire collecté, presque 110 kilos de roche. Et celui enfin du record de vitesse établi à bord de la fameuse Jeep lunaire, 18 km/h, ce rover dans lequel les deux astronautes sillonnent la Lune. Bernard Chabert nous fait vivre cette exploration.
La balade commença par un tronçon de 7 km en direction du sud-ouest jusqu'aux premières pentes de massif montagneux qui s'appelle le Massif Sud. Premier arrêt et première vue saisissante de la Lune via la caméra montée sur le rover. Puis deuxième station au bord d'un cratère situé au milieu de cette vallée. Et c'est là que le docteur en géologie Harrison Schmitt a cherché ses mots et n'a pu que répéter 5 fois de suite « ça, c'est incroyable ». Il venait de tomber sur une traînée de couleur jaune-orangée, très vive, et à proximité de cet endroit, Cernan et Schmitt ont découvert des roches noires, d'autres gris bleutées et d'autres encore presque blanches.
Eugene Cernan et Harrison Schmitt, donc dernier duo à marcher sur la Lune, à rouler sur la Lune et à chanter sur la Lune. Les deux explorateurs offrent cette séquence mythique lunaire, oserais-je dire, dans leur scaphandre blanc. Ils font des bonds de cabri en parodiant une chanson. On les entend fredonner « I was walking on the moon »,« Je me promenais un jour sur la Lune » par un joyeux mois de décembre. C'est en fait la parodie d'une chanson très connue à l'époque, « The Fountain in the Park ». Je me promenais un jour dans un parc par un joyeux mois de mai.
Ce sera le dernier moment suspendu, hein, Hélène Terzian, avant que le programme Apollo ne s'achève totalement.
Le pari fou de John Fitzgerald Kennedy doit s'arrêter trop cher. Cela intéresse moins les politiques, au grand regret de Gene Cernan, qui misera ensuite sur une autre conquête, une autre planète. Après la Lune, il n'a cessé de répéter avant sa mort, il y a 3 ans, qu'il fallait absolument explorer la planète rouge pour qu'un jour l'homme puisse marcher sur Mars.
Merci beaucoup Hélène Terzian, j'espère que vous reviendrez quand on aura marché sur Mars.
Évidemment.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et dans un instant, ce sera le rappel de l'actualité avec Julien Pierce et puis place à la musique sur Europe 1 avec vous, Émilie Mazoyer. Bonsoir Émilie.
Bonsoir, comment ça va Isabelle?
Moi ça va très très bien, c'est vendredi.
Ouais, très bon choix de musique, hein,
David,
David Bowie,
Bowie
puisque aujourd'hui il aurait eu 74 ans.
Ah dis donc.
Ouais. Et d'ailleurs, j'en parlerai pendant l'émission, tout au long du week-end, c'est un week-end de célébration pour les fans de Bowie puisque dimanche marquera la 5e année de sa disparition déjà. Et ce soir, non invité, oui. Oh, écoutez-le chanter. Un des ténors les plus demandés
Roberto.
Partout dans le monde. Oui, Roberto Alagna, qui vient dans Musique pour nous parler de sa vie en confinement, de ses projets, dont une comédie musicale dans laquelle il jouera Al Capone, et puis son dernier album où il reprend des standards de la chanson française, ça s'appelle Le Chanteur.
Roberto Alagna et David Bowie.
Waouh, pas mal, hein?
Bravo! Belle émission, Émilie.
Merci, Isabelle.
Très belle soirée à tous. Je vous retrouve lundi dès 18h avec Julien Bugier. D'ici là, on écoute Le Monde Changé, bien sûr.